Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et il est 19h21, on se retrouve évidemment en direct en studio Europe Soir et on ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des Idées avec au programme le bien-être animal. C'est devenu le nouveau dada des politiques, après le score surprise du parti animaliste aux européennes, après aussi une pétition à succès, portée par des grands patrons, Marc Simoncini, Xavier Niel, et après ce sondage aussi qui montre que 2/3 des Français souhaitent une meilleure prise en compte, et bien du bien-être animal justement. Alors faut-il arrêter d'aller au cirque, en finir avec la chasse, comme le réclament certains écoles, ou aller encore plus loin. On en parle ce soir dans ce débat qui déchaîne les passions avec nos invités Jean-Pierre Digard, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS. Bonsoir. Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, bonsoir.
Bonsoir.
Louis Schweitzer, président du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Thierry Cosse, qui est avec nous par téléphone, représentant et conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs. Bienvenue, bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Alors une question d'actualité évidemment pour débuter. Hier, après des semaines de polémiques, l'Élysée a décidé d'interdire la chasse à la glu au moins pour un an. C'est un symbole, est-ce que vous applaudissez, Christophe Marie ?
Oui, c'est positif. Alors après, ça ne fait que répondre à une mise en demeure de la Commission européenne, hein, puisque là, la France était en infraction depuis 11 ans par rapport à la directive oiseaux. Donc, ça aurait été extrêmement choquant que le ministre, que le Premier ministre qui avait été sollicité sur l'affaire par Emmanuel Macron, désavoue la ministre de l'écologie.
Mais elle a une incertitude sur la décision qu'allait prendre quand même l'Élysée.
Oui, bien sûr, parce que la ministre de l'écologie avait annoncé...
On entendait dire qu'Emmanuel Macron était sous la jougue du lobby des chasseurs. Thierry Cosse nous en dira un mot dans quelques secondes.
Ça, c'est une évidence. Oui, bien sûr, c'est une évidence. En revanche, la France ne peut pas toujours être en infraction avec les règles européennes et elle l'était sur la question de l'utilisation de la glu.
Bien, Thierry Cosse, il paraît que vous murmurez à l'oreille du président de la République. Est-ce que c'est vrai ?
Écoutez, si je murmure, c'est surtout pour parler de ruralité. Ça concerne 20 millions de personnes et pas seulement la chasse.
La chasse, mais ça concerne un peu moins de millions de personnes. C'est à peu près 1,5 million de chasseurs aujourd'hui. Hein.
Voilà, il y a, un peu plus d'un million de chasseurs.
Alors, votre réaction...
Il y en a un peu plus. La réaction, elle est qu'effectivement, nous n'avons pas réussi, nous avons perdu dans notre explication auprès du président de la République pour maintenir cette chasse traditionnelle. Nous avons perdu sur la glu, sur les autres chasses traditionnelles. Les arrêtés vont être signés ou sont signés par la ministre. Donc, c'est un choix. C'est un choix du président de la République sur un avis motivé. C'est une menace européenne qui l'a motivé à prendre une position de cette nature. Je vous rappelle que ça fait 3 ans qu'on engage des réformes sur la chasse, sur la biodiversité et sur la police rurale. Donc, nous sommes fâchés. Mais nous continuons le dialogue avec le président de la République et avec le gouvernement, bien évidemment.
Alors Thierry Cosse, et puis après on va rentrer dans le dur du débat sur le bien-être animal en général, mais l'ironie de cette interdiction tout de même, c'est que dans le même temps, le gouvernement vient d'autoriser la chasse de 17 460 tourterelles des bois pour l'ensemble de la saison 2020-2021. Si j'ai bien compris, la tourterelle est quand même une espèce qu'on dit en voie de disparition. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de décalage là ?
Mais il n'y a pas un problème de clash. Le comité scientifique qui conseille la ministre, qui est totalement indépendant et pas sous le lobby des chasseurs comme on raconte, c'est une énormité. On pèse peu et on dit qu'on est ultra puissant, ça me fait toujours sourire. La réalité, c'est qu'il y a un comité scientifique qui a dit que compte tenu de la situation, on pouvait chasser jusqu'à 18 000 tourterelles, mais qu'il fallait par ailleurs, en même temps, investir dans la plantation de haies parce que c'est l'habitat des tourterelles qui est dégradé et c'est pas le prélèvement par la chasse. Donc c'est exactement ce qui est fait et la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, signe ce texte sans difficulté.
Bien, ben justement, c'est peut-être une difficulté pour elle de le signer sous la pression d'Emmanuel Macron. Louis Schweitzer, votre réaction ?
Bon, ça aurait été tragique que le président de la République ne se rallie pas à la position européenne. Ce que je note de façon générale, c'est que sur les sujets de chasse, la France a été continuellement à la traîne de toute la politique européenne qui a pour objet, non pas d'interdire la chasse, mais de préserver les espèces, de préserver la biodiversité, d'empêcher que les oiseaux migrants soient détruits. Bref, la France, sur ce point, est en queue de peloton.
Et comment vous l'expliquez ça, Louis Schweitzer ? C'est le poids du lobby, c'est le bon boulot de Thierry Cosse, qui est donc représentant et conseiller de la Fédération nationale des chasseurs.
Extrêmement efficace, c'est que la preuve de son efficacité, c'est combien il parle modestement de son efficacité. Mais oui, je pense que le lobby des chasseurs est plus puissant en Europe que dans l'immense majorité des pays d'Europe.
Alors, on va se retrouver dans quelques secondes. Mais pour lancer le débat qui nous anime ce soir sur le bien-être animal, qui prend une consistance particulière en ce moment dans l'opinion publique, je voudrais vous poser cette question, M. Coste. Est-ce que la chasse, pour vous, est aujourd'hui encore une pratique acceptable? On pense évidemment à la chasse à courre, mais la chasse traditionnelle peut-être d'une certaine manière aussi. Laissez-moi finir. Dans un contexte progressiste, moderne, peut-on encore tuer des animaux pour s'amuser? Voilà, c'est ça la question qui nous est posée philosophiquement. Votre réponse?
Alors, la réponse est oui, et je pense que la chasse est un atout formidable pour la biodiversité.
Non, mais ça, c'est un autre sujet. Est-ce que ça peut être encore un hobby?
Bien sûr qu'on peut tuer des animaux
pour s'amuser.
À partir du moment pour les manger ou pour réguler s'ils font des dégâts,
ouais.
Mais on assume complètement le fait de les manger sans difficulté. Et l'animal, d'abord, c'est une viande d'une extraordinaire qualité,
oui.
Et d'autre part, on ne prélève que les intérêts du capital.
J'ai pu accompagner mon grand-père à la chasse quand j'étais petit. Quand on voit les tableaux de chasse, il y a plus à manger que de bonhommes, hein, généralement. Donc il y a quand même une partie ludique dans la chasse, on est d'accord.
Non, mais encore heureux, mais pourquoi? C'est parce qu'on est des passionnés de nature. On n'est pas juste là pour tirer des coups de fusil. La réglementation, M. Schweitzer disait, la France est à la traîne. Mais la France est le seul pays en Europe à avoir un office français de la biodiversité avec des fonctionnaires totalement dédiés sur le sujet. La France est le seul pays à avoir une police rurale de la chasse et de la pêche qui est avec 2000 personnes qui sont des fonctionnaires. Les chasseurs les ont payés sans jamais les commander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France, c'est un Eldorado en matière de biodiversité à cause de sa géographie. Pour ça qu'on est à plus de chasseurs qu'ailleurs.
Vous restez avec nous, Thierry Coste, et puis on donnera la parole à Jean-Pierre Digard qui a écouté sagement tout ce qui a été dit. On marque une pause, on se retrouve dans quelques secondes pour continuer de parler de ce débat.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on se retrouve avec le débat du Club des idées, toujours pour parler de ce débat qui déchaîne les passions en ce moment, cette rentrée, tout particulièrement sur le bien-être animal, avec Thierry Coste, représentant et conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs, avec Jean-Pierre Digard, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS, avec Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, et avec Louis Schweitzer, président du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal. Alors Jean-Pierre Digard, on ne vous a pas encore entendu. Vous, d'abord globalement, qu'en pensez-vous de ce débat autour du bien-être animal? Est-ce que vous comprenez cette considération qu'ont les Français? Et encore une fois, contrairement à ce que dit le patron de la Fédération Nationale des Chasseurs, Willy Schren, c'est pas un truc de bobo parisien. Parce que quand on regarde les sondages, 83% des Français sont pour une meilleure prise en compte du bien-être animal.
Connaissez-vous une seule personne qui soit partisane du maltraitement des animaux? Moi, je n'en connais pas. Donc, c'est évident que dès l'instant où on pose une question... êtes-vous partisan de l'amélioration du bien-être animal?
Mais à la même question, on ne répondait pas la même chose il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, on n'utilisait pas l'expression bien-être animal. C'est quelque chose de très récent. Et d'ailleurs, je crois que c'est une expression qui est inappropriée. C'est une traduction approximative de l'anglais animal welfare. Ce n'est pas très heureux parce que c'est une notion très subjective. Et puis... j'ai encore entendu personne à qui un animal s'est confié pour savoir ce que c'est que son bien-être.
Ouais. Bon. Il y a études qui ont été faites quand même sur ce que ressentent les animaux en captivité.
Oui, enfin, en plus, quand on parle du bien-être animal, le bien-être d'un porc, c'est certainement pas le bien-être d'un cheval ou le bien-être d'une poule. Donc là encore, on ne peut pas parler en général. Vous voyez. Donc,
pour toutes... Christophe Marie, sur la définition du bien-être animal, c'est vrai que c'est bien de recadrer les choses.
Effectivement, il y a une définition, enfin il y a plusieurs définitions, mais en l'occurrence, répondre à ses besoins, effectivement, ça va dépendre des espèces. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive à dénoncer certains systèmes d'élevage, comme l'élevage des poules en cage ou des lapins qui sont élevés à 99% en France dans des cages grillagées. Effectivement, ces systèmes ne peuvent pas répondre aux besoins biologiques, physiologiques de ces animaux. Donc, il y a pas besoin, enfin c'est assez simple de savoir si un animal est bien ou n'est pas bien dans un système d'élevage, et il y a une nécessité de répondre à ses besoins. Et d'ailleurs, quand vous dites que plus de 83% des gens sont pour le bien-être animal, il y a des questions qui sont beaucoup plus fines par rapport à des pratiques. Donc, par exemple, 83%, c'est le pourcentage des Français qui sont contre la chasse à courre.
Alors justement, Louis Schweitzer, vous y êtes opposé, vous, à la chasse à courre ou pas?
Tout à fait. Je suis opposée, et la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences est opposée à tout ce qu'on appelle les chasses cruelles. La chasse à la glu en est une.
La chasse à cour en fait partie.
La chasse à cour en est une autre. Ce qu'on appelle la vénerie souterraine, c'est-à-dire la chasse au blaireau, aussi, absolument, ce sont des chasses cruelles.
Alors la chasse à cour, c'est 5000 bêtes tuées à peu près par an, donc ça reste quand même très marginal. Et c'est vrai que 82% des Français y sont aujourd'hui opposés. Thierry Coste, vous êtes conseiller de la Fédération nationale des chasseurs, je vous pose la question sans détour. Est-ce que la démocratie, ça n'est pas ça aussi, écouter la majorité des Français? Parce que vous, vous défendez évidemment la chasse à cour.
Bien sûr, je défends la chasse à cour. La démocratie, c'est effectivement de respecter les minorités aussi. Je vous le rappelle, et nos amis répètent souvent que nous sommes ultra minoritaires, que nous pesons plus rien, donc on devrait nous respecter de plus en plus, puisque théoriquement, en démocratie, on respecte les minorités.
Mais pour aller plus loin, un peu barbare quand même dans la chasse
à cour. Et pour ne pas plaisanter. Non, la chasse à cour, je vous rappelle que le loup ou le renard chasse de façon très cruelle les animaux.
On n'est pas
le
des
loup,
loups.
Le loup les fait courir longtemps, il attaque en meute, on le voit bien ce qu'il fait au troupeau. On le voit bien ce qu'il fait au troupeau de moutons. C'est sans, il tue des, il mange des animaux sans les tuer. Donc la cruauté, elle est réelle dans la nature. Alors moi j'aime bien le propos de M. Schweitzer qui dit qu'il ne faut pas de chasse cruelle. Mais enfin, tuer, c'est cruel. Parce que nécessairement, alors on ne fait pas souffrir. Moi je suis pour qu'on continue à lutter contre la maltraitance animale. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont inadmissibles.
Alors il faut être un bon chasseur et tirer d'un coup d'un seul pour que l'animal ne souffre pas.
La chasse à cour, l'animal qui est chassé a beaucoup plus de chances que quand on le chasse à tir. Donc moi, je n'y vois pas d'inconvénient.
Louis Schweitzer vous répond.
Non, simplement, vous le savez, la loi interdit les actes de cruauté vis-à-vis des animaux domestiques.
Alors,
mais la loi n'interdit pas les actes de cruauté vis-à-vis des animaux sauvages.
C'est un point très
et
important.
Donc, ma question à M. Coste, c'est est-ce qu'il serait d'accord pour que l'on étende aux animaux sauvages l'interdiction des actes de cruauté?
Réponse.
L'objectif, c'est d'arrêter tous les actes de chasse derrière ça. On le sait bien. Alors que demander aux forestiers, aux agriculteurs, s'il faut qu'on arrête de chasser, ils
donc
en ont marre.
Donc c'est reconnaître que c'est un acte de cruauté.
Attendez, laissez-le répondre, Thierry Coste.
Mais,
allez, poursuivez.
Mais c'est cruel. Mais attendez, mais tuer, c'est cruel. Pardonnez-moi. Enfin, si, on ne va pas faire un débat sémantique. Bien. Moi, j'assume le fait de tuer,
alors,
bien
non,
évidemment.
Mais je voulais rebondir, parce que pour donner un cadre historique, c'est vrai que c'est important ce que disait Louis Schweitzer. C'est une considération, le bien-être animal, qui n'est pas tout à fait nouvelle. En 1850, une première loi de protection de l'animal est adoptée. Le texte dit ceci. Seront punis d'une amende de 5 à 15 francs, avec possibilité d'aller en prison, ceux qui maltraitent des animaux domestiques. 1963, l'acte de cruauté envers l'animal est un délit. 1976, reconnaissance de l'animal comme être sensible. Et enfin, 2015, le premier code des animaux voit le jour. Alors c'est vrai que ça pose une question, Jean-Pierre Digard, un peu philosophique. Pourquoi maltraiter son chat et son chien, c'est passible de la prison, mais on peut maltraiter... je vais prendre l'exemple qui va faire hurler tout le monde. On peut maltraiter un taureau quand on fait de la corrida.
Mais oui, mais pourquoi... Évidemment, si vous prenez des exemples qui sont extrêmes, la chasse à cour, la corrida, la chasse à la glu...
Mais les combats sont faits de symboles aussi, vous savez.
Oui, mais enfin, moi j'aimerais qu'on parle de faits qui sont généralisés, comme les abandons d'animaux de compagnie au début des vacances, comme ces scènes épouvantables qu'on voit dans les élevages industriels de canards ou de poules qui marchent au milieu des cadavres de leurs congénères.
Ça vous révolte ça aussi?
Absolument.
Oui.
Et voilà, puisque le titre de votre émission, c'était « En fait, en fait-on trop ou pas assez ?»
Oui. Donc, alors, est-ce qu'on en fait trop ou pas assez sur le bien-être animal?
Eh bien, justement, dans certains cas, on n'en fait pas assez, comme les cas pour lesquels je viens de parler.
L'élevage intensif, notamment.
L'abandon des animaux de compagnie, oui. On n'en fait pas assez. C'est une horreur.
Ça, je crois qu'on est tous d'accord.
Oui.
Et ça fait longtemps...
200 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés chaque année.
C'est ça, c'est colossal. Ça fait des décennies que je plaide pour... l'existence, l'institution d'un certificat de capacité pour l'acquisition d'un animal de compagnie. Parce qu'on va faire des choses épouvantables avec les animaux. Je crois que les animaux
Christophe
de compagnie...
Marie, réaction, est-ce que c'est intéressant ce que dit monsieur?
Oui, mais en fait, nous...
Vous
on
êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.
Oui, en fait, le problème surtout, c'est le fait qu'on peut s'approvisionner en animaux absolument partout, donc que ce soit les animaleries, mais maintenant avec les réseaux sociaux, bon, les petites annonces, c'est pas nouveau, mais les petites annonces, c'est un vrai grand problème également. Il n'y a aucune volonté d'encadrer ça strictement, que ce soit le Bon Coin ou autre. Maintenant, effectivement, avec les réseaux sociaux, c'est encore plus compliqué. Donc il y a énormément d'animaux qui sont vendus ou cédés,
oui,
et pas à des personnes qui ne sont pas du tout susceptibles de pouvoir s'en occuper. Donc c'est le gros problème. C'est des achats coup de cœur et derrière un abandon qui suit.
Alors oui,
je suis tout à fait d'accord.
On évoquera dans un instant l'élevage intensif, l'élevage clos, notamment avec les vidéos de L214, la fameuse association qu'on a vue régulièrement. Peut-être un mot, Louis Schweitzer, vous me faites signe.
Je voulais simplement rappeler que le gouvernement a demandé à un député vétérinaire, Loïc Dombreval, de faire un rapport sur les animaux de compagnie. Et que ce député a fait 150 propositions pour améliorer la situation des animaux de compagnie, diminuer les abandons, éviter la maltraitance. Pour le moment, on n'a pas entendu le gouvernement prendre position sur ce rapport et on l'attend avec beaucoup
d'intérêt.
Alors,
vous me permettez de revenir sur les symboles, sur les combats un peu symboles. La corrida, je l'évoquais, tiens, voilà. C'est une question philosophique intéressante entre culture de la tradition, disent certains, et puis barbarie envers l'animal. Écoutez par exemple le comédien Pierre Arditi qui faisait partie des signataires pour défendre la corrida, avec d'ailleurs un certain Éric Dupond-Moretti. On écoute.
J'ai vu de la corrida, la première fois de ma vie j'en ai vu, j'avais 14 ans. Je suis désolé, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pas une boucherie, la tauromachie c'est un art. On peut ne pas aimer cet art, mais on ne peut pas le ravaler au rang d'une espèce de boucherie généralisée qu'il faudrait absolument interdire pour la bonne conscience générale de tout le monde.
Alors Thierry Cosse qui représente la Fédération Nationale des Chasseurs, je vous pose la question sans malice, hein, qui sort un peu de votre rôle. Vous la corrida, pour, contre?
Bien sûr que je suis pour la corrida, à partir du moment où elle respecte des règles. Mais
on
c'est
est rassuré.
On a un vrai travail sur la maltraitance. On a un vrai travail sur la maltraitance animale. Moi, je suis tranquille puisque vous me décrivez comme un affreux lobbyiste de la chasse, mais je défends aussi des fondations affreux, de protection animale parce que il est urgent. Dans le rapport du député Dombreval dont parlait M. Schweitzer, il y a plein de mesures qui sont très bonnes, notamment sur le commerce. Et beaucoup sur l'éducation, parce qu'il faut transformer le comportement des individus. Parce que quand on voit le nombre d'animaux qui sont laissés au début de l'été,
oui,
mais c'est honteux. C'est 100 fois plus que ce que fait la chasse.
Alors, c'est pareil,
inadmissible.
Hein, la corrida, ce n'est pas un débat nouveau. J'ai retrouvé un écrit de Zola qui disait déjà à son époque « Ça n'est ni un art ni culture, mais la torture d'une victime désignée. » Alors moi, à titre personnel, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je vois bien que dans l'opinion, ça suscite une émotion particulière. Christophe Marie.
Bah, oui, Hugo aussi dénoncé. Mais là, en l'occurrence, il faut rappeler que la corrida, qui est une tradition espagnole, hein, déjà à la base, pas française, bon, enfin, ça n'est pas le problème. Mais en l'occurrence, pour le droit français, dans le code pénal, c'est un acte de cruauté et des sévices graves sur animaux, passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, à l'exception de certaines régions. En revanche, c'est absolument incompréhensible. Dès lors qu'on reconnaît que cet acte est un acte de cruauté,
oui,
pourquoi ne pas le condamner sur l'ensemble du territoire? Ça, c'est une aberration. Et alors là, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit un petit peu plus tôt, parce que les chasseurs indiquent qu'on est prêt à faire évoluer, à prendre en compte la condition animale. Les éleveurs disent la même chose. Et dès lors qu'on fait une proposition, là, comme l'arrêt de la chasse à glu, eh bien, il y a une opposition forte. Donc,
mais ça, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. Quand vous dites aux Français, il y a de la pollution, mais il faut rouler à 30,
voilà,
personne n'est d'accord.
Mais là, le problème, en l'occurrence, c'est qu'il y a une volonté de tout bloquer pour qu'il n'y ait aucune avancée dans le domaine de la condition animale.
On continue d'en parler dans quelques secondes et on parlera aussi de cette approche philosophique qui est le parti animaliste. On vous explique tout après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h44, on poursuit le débat du Club des idées. On parle ce soir du bien-être animal avec Jean-Pierre Digard, anthropologue et directeur de recherche émérite au CNRS, Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, Louis Schweitzer, président du conseil d'administration de la Fondation Droit Animal. Et puis on va remercier Thierry Coste qui nous a accompagnés pendant la première partie du débat, qui est conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs. Merci à vous, Thierry Coste. Alors juste avant la pause, on évoquait avec vous, Jean-Pierre Digard, on évoquait le bien-être animal dans les élevages intensifs. C'est vrai qu'on a découvert depuis maintenant quelques années, grâce aux associations de défense des animaux d'ailleurs, notamment L214, des vidéos absolument choquantes qui posent là aussi une question philosophique. Considère-t-on que l'animal est là pour nous servir et nous nourrir, quitte à souffrir, ou le progrès, c'est aussi de prendre en compte la souffrance de l'être vivant, même s'il a quatre pattes?
Je suis persuadé que dès l'instant où il a domestiqué des animaux, c'est-à-dire il y a plus de 10 millénaires, l'homme s'est créé des devoirs envers les animaux qu'il a domestiqués. Donc les spectacles qu'on voit, qui ont été montrés par L214, sont des spectacles absolument révoltants et qui ne devraient plus exister. Mais il ne suffit pas de se scandaliser et d'interdire l'élevage industriel. Il faut dire que
ces élevages devraient être inspectés régulièrement par les services vétérinaires. Or, les inspecteurs vétérinaires sont en sous-effectif depuis plusieurs décennies. Et c'est là qu'est le scandale. Parce que dans toutes
Mais il y a aussi une responsabilité individuelle de l'éleveur.
Oui, vous savez, bon, justement, un des reproches que je ferai à L214, c'est de faire passer ça pour la généralité. Or, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a dans toutes les professions des brebis galeuses ou des gens en grande détresse économique ou psychologique qui donnent ce résultat. Mmh, ça ne doit pas exister. Il faut prévenir le phénomène avec les services de... Mais il ne faut pas non plus généraliser et dire que tous les élevages, même intensifs, sont dans cet état-là. Ça n'est pas vrai.
Louis Schweitzer, selon l'IFOP, 82% des Français se disent favorables à l'interdiction en France de l'élevage en cage d'ici 5 ans. Ça, c'est tout à fait nouveau parce que vous posiez la même question il y a 10 ans.
Alors, il faut rappeler que l'étiquetage des œufs sur les modes d'élevage des poules est une initiative de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Ça a pris 30 ans pour arriver à ce résultat que maintenant, on a décidé d'interdire l'élevage des poules pondeuse en cage à terme. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a les pratiques scandaleuses, mais il y a des pratiques habituelles, acceptées, qui sont insupportables du point de vue du bien-être et je dirais même de la bientraitance. Il y a des formes d'élevage industriel qui sont totalement incompatibles avec la bientraitance. On parle des poules en cage, on peut parler de tous ces animaux qui ne voient jamais de leur vie la lumière du jour.
Alors, on va écouter justement un court extrait de cette vidéo qui a vraiment choqué l'opinion sortie il y a quelques jours. Même l'association a dit que c'était la pire exploitation qu'il n'avait jamais vue. Écoutez.
Dans cet élevage, il y a autant de canards vivants que de carcasses en décomposition. Au sol, une épaisse couche d'excréments mélangée à des colonies d'asticots. Les déjections des animaux jamais ramassés débordent à l'extérieur du bâtiment et ont même contaminé un cours d'eau situé juste à côté.
Voilà, pardon si vous dînez, bon appétit. Mais le poids des mots est important aussi dans ce genre d'explication.
Je voudrais rejoindre ce qu'a dit M. Bijard, c'est que c'est des pratiques atypiques et qu'effectivement, qui ne sont pas représentatives de l'élevage. Mais c'est vrai que l'industrialisation de l'élevage, qui n'est pas venue de France, qui est plus forte dans d'autres pays qu'en France, est totalement incompatible, je le dis, seulement avec le bien-être animal, mais avec la bientraitance animale. C'est l'entassement des animaux dans des lieux clos.
Et ça choque les Français maintenant.
Cela étant posé, d'accord. Mais en même temps, quand les gens non spécialistes réfléchissent sur le sort des animaux, ils ont tendance, assez naturellement, à se mettre à la place des animaux. D'où cette revendication presque généralisée de l'élevage en plein air.
Oui.
Bon. Mais l'élevage en plein air, pourquoi pas ? Il y en a beaucoup en France. Et ça fait partie de la diversité et de la richesse de l'élevage en France, sa diversité. Bon. Mais il faut savoir que l'élevage en plein air, ce n'est pas forcément synonyme de bien-être. Il y a des bovins, des vaches qui sont élevés en stabulation libre, avec tout ce qui leur tombe dans la mangeoire quand il faut. Vous ouvrez les portes de l'étable, elles vont faire un tour dans le pré, 20 minutes après, elles rentrent. Parce que ça n'intéresse pas d'être dehors.
Mais elles sont conditionnées.
Mais elles peuvent sortir. Et puis, il y a aussi des risques sanitaires importants.
Oui.
La grippe aviaire, ça s'est développé à cause des oiseaux migrateurs dans les élevages en plein air.
Oui.
La peste porcine, pareil, par les sangliers qui arrivent dans les élevages de porcs en plein air.
Alors, c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, mais il faut prendre tous les facteurs en considération.
En fait, ce qu'il y a, c'est que ces problèmes d'élevage intensif, alors effectivement, il y a le problème des vétérinaires qui ne font pas de contrôle parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. On a le même cas dans les abattoirs où les vétérinaires sont sur le post-mortem pour vérifier les viandes, donc sur un aspect sanitaire, pas du tout sur l'amener des animaux et les conditions d'abattage. Donc ça, c'est un gros problème. Mais le problème de l'élevage en France, globalement, c'est la politique qui est menée, qui est poussée par la FNSEA notamment, qui est toujours de faire toujours plus d'animaux dans toujours moins d'espace. Donc, alors après, on nous dit, oui, effectivement, les personnes sont en crise, il y a beaucoup d'agriculteurs.
Et puis un problème de compétitivité, il faut que ça soit harmonisé au niveau européen.
Ah oui, mais alors là, à ce moment-là...
Il y a un problème d'espace.
place.
Oui, mais on le sera pas de toute façon par rapport au poulet brésilien ou d'autres. Donc il y a un moment, on peut aussi favoriser un autre système d'élevage de meilleure qualité et plus respectueux des animaux et plus respectueux aussi des éleveurs.
Est-ce que vous avez le sentiment, Louis Schweitzer, que l'exécutif est en retard sur ces questions de bien-être animal par rapport à l'opinion publique, quand on voit les sondages, quand on voit le succès des pétitions, quand on voit tout cela?
La réponse est oui. Il faut rappeler
mais l'opinion
que dans
publique
les sondages,
n'est pas forcément bien informée.
Il faut rappeler que dans les sondages, il y a celui que vous avez cité, il y en a d'autres qui sont faits au niveau européen, dans tous les pays, et dans ces sondages notamment, 72% des Français disent qu'ils sont prêts à payer plus cher la viande qu'ils achètent pour assurer aux animaux dont ils consomment la chair un meilleur bien-être.
Oui.
Donc, ce n'est pas seulement de répondre à des questions faciles,
oui, oui.
C'est de dire « je suis prêt à payer plus cher ». Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé un projet d'étiquetage du bien-être animal sur les poulets qui existent, qui est en cours d'examen sur les porcs,
oui.
Pour permettre aux consommateurs de savoir si l'animal dont ils consomment la chair a été ou pas bien traité et a bénéficié de bien-être.
Alors, si vous le permettez, je voudrais terminer par le succès assez étonnant du parti animaliste aux européennes. Alors, ils n'ont pas non plus cassé la baraque, mais quand même, ils ont dépassé certains partis traditionnels. Ils avaient rassemblé 2,2% des suffrages exprimés. Et je voudrais qu'on s'arrête sur l'idéologie qu'il y a derrière, car ce sont des gens qui sont assez extrémistes, à l'image de ce qu'avait déclaré par exemple quelqu'un comme Manon Aubry, députée européenne LFI, lors des universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. C'était la semaine dernière, écoutez-la.
On arrive à un autre niveau du débat. Est-ce que sortir de cette société de consommation, c'est poser des contraintes à nos libertés individuelles? Je pense qu'il faut assumer de dire oui dans une certaine mesure.
Voilà, il y a quelque chose de frappant, mais qui est une idéologie qui existe depuis les années 70, qui est une approche globale, qui est de dire que l'animal est l'égal de l'homme et par conséquent, tout doit être fait pour ne pas entraver sa liberté et son développement et donc la décroissance, quitte à restreindre les libertés individuelles de l'homme. Vous connaissez cette
oui,
idéologie animaliste, Christophe Marie ?
Oui, oui, oui. Alors, si on parle de l'antispécisme, qui n'est pas le cas en l'occurrence du parti animaliste, mais l'antispécisme, ce n'est pas mettre à égalité l'homme vis-à-vis des autres espèces animales, c'est simplement reconnaître que ces différentes espèces animales ont des droits et ne doivent pas être exploitées de manière telle qu'elles le sont actuellement.
Jean-Pierre Digard, pardon, qui secoue la tête.
L'antispécisme, c'est pas ça. C'est traiter de l'animal au singulier, comme si tous les animaux étaient identiques.
Pas du tout. Pas du tout.
Je crois qu'on nous trois en étant antispécistes. Donc c'est un débat un peu vain entre nous trois.
Oui, mais c'est oui, intéressant enfin, de voir qu'il y a une considération comme ça qui passe aujourd'hui dans l'opinion.
Mais ce que tout le monde sait, c'est qu'un animal, presque tous les vertébrés en tout cas, sont capables de souffrir. Et nous savons que tous les animaux, en tout cas les mammifères, sont capables de bonheur. Personne n'a vu, n'est capable de dire qu'un chien n'est pas capable d'être heureux
bien sûr.
Ou malheureux. Tout le monde le sait, cela.
Mais non.
Et si on peut, par un effort financier maîtrisé, réduire la quantité de souffrance dans le monde et augmenter la quantité de bonheur dans le monde, je ne vois pas ce qui justifie de ne pas le faire.
Bien, merci à tous les trois. Merci, le temps qui nous est imparti est malheureusement terminé.